Le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser maintenant toute la place à notre frère Bruno. On peut l'accueillir fraternellement et que le Seigneur te bénisse, merci, te fasse du bien, Bruno.
Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs et chers amis. Très heureux et très ému d'être avec vous aujourd'hui et vous allez l'entendre et le comprendre pourquoi dans quelques instants. Avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, je vais adresser quelques remerciements. Et je vais citer quelques prénoms, si vous me le permettez. Tout d'abord, merci à votre pasteur, Yvan Cassard, pour son invitation. Mélanie, Sylvaine et moi-même, on est très heureux de passer ce dimanche avec toi, Yvan. Voilà. Yvan, c'est un collègue, c'est un ami. Voilà. On se connaît depuis pas mal d'années et voilà, on s'entend bien. J'aime Yvan pour la personne qu'il est et je tenais vraiment à remercier Yvan pour son invitation. Je veux aussi remercier Yvan, votre pasteur et le conseil d'administration de l'Église. Je suis arrivé à Argentan, ça fait bientôt 2 ans, dans une petite église qui n'avait plus de pasteur. C'était des pasteurs à la retraite qui venaient chaque dimanche assurer les réunions et aussi en semaine. Et quand je suis arrivé, le conseil d'administration de l'Église d'Argentan m'a dit « Monsieur Pelletier, comme nos finances sont très justes, on va vous faire un contrat d'un an. » En 37 ans de ministère, c'est la première fois que ça m'arrivait. Un contrat d'un an, et dans un an, on fera le point pour voir la suite à donner. Et puis voilà qu'un jour, un don dirigé est arrivé à l'église d'Argentan pour soutenir mon ministère. Et ce don dirigé, il venait de l'église Ciel Ouvert. Alléluia. Merci à Yvan et merci au conseil d'administration, parce que ce don, il a changé beaucoup de choses, frères et sœurs. Beaucoup. Je veux aussi remercier maintenant Michael, Vincent et Stéphane. Vous êtes là ? Je veux vous remercier pourquoi ? Parce qu'un samedi cet été, vous avez pris de votre temps. Vous êtes venus à vos frais, à Argentan, pour aider Léo, un jeune de l'église, et Thomas, notre fils, pour tout ce qui est sonorisation. Et moi, je tenais à vous dire merci. Voilà, au nom de l'Église. J'ai presque fini, mais je bénis Dieu, frères et sœurs, d'avoir la possibilité ce matin de vive voix, de dire, de vous adresser ces remerciements. Je veux vous dire merci à vous, Église de Saint-Étienne, Ciel Ouvert, et aussi aux frères et sœurs qui font l'accueil. Je vais parler de ma fille et qu'elle ne prenne pas ce que je vais dire comme un jugement. Notre fille Mélanie travaille depuis des années dans la région de Rouen. Seulement Mélanie, pendant des années, elle n'est plus venue à l'église. Il y a des familles chrétiennes, mais il y a aussi des couples pastoraux qui ont des enfants qui ne viennent plus à l'église. Et Mélanie, pendant des années, n'est plus venue à l'église. Et puis un jour, elle m'interpelle, moi et sa maman, et elle nous dit « Tiens, j'irai bien à un culte ». Mais à Rouen et dans l'agglomération, il y a l'embarras du choix. Alors on lui a dit avec sa maman, eh bien, va à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, à l'église Ciel Ouvert. Il y a Yvan Cassard, le pasteur, on connaît bien, vas-y. Et Mélanie est venue. Et là je cite quelques prénoms, pardonnez-moi si j'en oublie quelques-uns. Il y a Céline, est-ce qu'elle est là Céline ? Céline, il me semblait te reconnaître, Céline. Il y a Céline, il y a Olivier Tiffaine. Il est là, Olivier ? Non. Il y a les responsables de la jeunesse. Je veux vous dire merci, frères et sœurs, parce que l'accueil, c'est important, vous le savez. Accueillir une personne nouvelle, c'est important, mais accueillir un enfant prodigue, quelqu'un qui n'est pas venu depuis des années à l'église, c'est important. Et un sourire, un petit mot gentil, un SMS, ça a touché ma fille. Et ça nous a touchés aussi, frères et sœurs. Et moi, je voulais vous dire merci. Merci pour l'accueil que vous réservez à chacun dans ce lieu. Voilà, j'en ai terminé. Ça va beaucoup mieux maintenant, voyez-vous. Je me sens vraiment bien. Mais c'était tellement important pour moi. Tellement important. Mon papa, vous le connaissez. On nous a appris la politesse à la maison. Tu dis merci. Et moi, je dis merci, Seigneur, pour cette belle église. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, vous qui faites l'accueil. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Je vous propose une lecture ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. On va prendre le temps de lire les 16 premiers versets. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 1er. J'ai aperçu aussi mon collègue Joël Boinet et son épouse. Je suis très heureux aussi de les revoir, hein, bien sûr. Voilà. Matthieu 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Dans ces versets, frères et sœurs, chers amis, le Seigneur Jésus parle à ses disciples et il nous parle aussi, bien sûr, à chacun d'entre nous. Il prépare ses disciples. Il exhorte les disciples. Et le Seigneur, dans ce texte, nous parle de son royaume. Et comment, en tant qu'enfant de Dieu, on doit vivre dans ce royaume ? Dans quel état d'esprit, avec quelle mentalité ? Maintenant que je suis chrétien, maintenant que je suis enfant de Dieu, maintenant que je fais partie de ce royaume, quelle est la ligne à suivre, la conduite à avoir ? Vivre dans ce monde, frères et sœurs, vivre dans cette société que vous connaissez comme moi, avec la mentalité du royaume de Dieu, c'est pour vous, comme pour moi, un véritable programme tous les jours. Tous les jours. Vivre dans ce monde, avec la mentalité de ce monde, en étant chrétien, c'est tout un programme, et je vais le détailler avec vous maintenant. Dieu présente à ses disciples les règles qui régissent son royaume. Parce que voilà, on ne vit pas n'importe comment dans ce royaume. Dieu présente les règles qui régissent son royaume. Et il va montrer comment on vit dans son royaume. Et Jésus n'a pas peur, d'emblée, dès le départ, de placer ses disciples devant toutes sortes de problèmes, de difficultés qu'ils vont rencontrer, devant toutes sortes d'obstacles qu'ils vont rencontrer. Dieu n'a pas peur, d'emblée, de dire à ses disciples, attention, à certains moments, vous allez être persécutés à cause de votre foi. Vous allez être persécutés parce que vous êtes à moi, parce que vous êtes mes serviteurs. Vous allez être persécutés par tous ceux que vous allez côtoyer et qui, eux, ne se soumettent pas au royaume, au principe du royaume de Dieu. Et Jésus va placer ses disciples, frères et sœurs, aussi devant une responsabilité à assumer. Il va dire à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Et c'est ce message que Dieu veut nous laisser ce matin, frères et sœurs. « Tu es, je suis, le sel de la terre, la lumière du monde. » Dans ta famille, dans ton quartier, à l'université, au collège, au lycée, à l'usine. Alors, le chrétien que nous sommes doit faire face à une sorte de dilemme. Parce que, comme je viens de vous le dire, en tant que chrétien, on va vivre, on doit vivre selon les principes du royaume de Dieu dans un monde qui les rejette, dans un monde qui n'en veut pas, dans un monde qui n'y croit pas. Voilà le dilemme pour le chrétien. On est dans le monde, mais on n'est plus du monde. Alors, sans participer à son péché, le chrétien que nous sommes doit se comporter, pas uniquement à l'église le dimanche matin, mais aussi demain matin. Voilà, on doit avoir un comportement, des pensées, des paroles, des attitudes. On doit se comporter de telle manière à être un interlocuteur valable. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on est le sel de la terre, quand on est la lumière du monde, eh bien là où le Seigneur t'a placé, voilà, ça se voit. T'as pas besoin de faire de grands discours, forcément, mais en étant cet homme, cette femme de Dieu, ça se voit, ça se remarquera, ça amènera les gens à se poser des questions, à t'interpeller peut-être un jour. Tiens, tu n'es pas comme nous, tiens, quand on discute là-dessus, tu t'écartes un peu, tiens, quand on te lance une invitation, tu viens pas avec nous, t'es différent, mais que se passe-t-il ? Et voilà, la perche est tendue. Hein. Être un interlocuteur valable, crédible. Et nous avons besoin, frères et sœurs, plus que jamais, on a besoin de trouver notre équilibre, justement. Je vis dans le monde, mais je suis plus du monde, quoi. Ce que je faisais autrefois, je ne peux plus le faire. Il y a des endroits où je ne peux plus aller. Parce que je suis chrétien, enfant de Dieu. Il faut trouver son équilibre, ses repères entre deux extrêmes, qui sont aussi, je appelle ça comme cela, deux écueils à éviter. Ne pas se conformer. Ne pas se conformer au siècle présent. Ne pas vivre selon les principes, les valeurs du siècle présent. Mais il y a aussi un autre écueil, ne pas se replier. On ne va pas devenir des ermites. On ne va pas aller se cloîtrer dans une tour là, en se disant maintenant que je suis chrétien, faut que je m'isole, je deviens un ermite. Non. Alors voyez-vous, je ne dois pas me conformer au monde et à sa mentalité, mais je ne dois pas non plus m'isoler, me cloîtrer. Je crois de tout mon cœur, j'ai vu les annonces, vous êtes vraiment une église, ça bouge, quoi, c'est en marche, il y a des tas d'activités, c'est formidable, frères et sœurs. Et je le dis sans aucune ironie, hein. Il faut chercher à être utile. Le chrétien, il doit chercher à être utile. Le Seigneur t'a pas placé ici-bas pour que les années passent, voilà, t'es quelqu'un comme les autres, tu dis rien, tu fais rien, tu témoignes pas. Non, il faut être utile. Là où le Seigneur t'a placé. Et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des inconvertis, excusez-moi, quand vous les avez du matin au soir, je vais y revenir dans quelques instants, c'est pas évident, quoi. Il faut chercher à être utile dans la société. On n'est pas des fanatiques, parce que toute forme de fanatisme ne contribuera jamais, jamais, à crédibiliser la cause du Seigneur, la cause du royaume de Dieu, hein. Mais quand on vit dans le royaume de Dieu, ça ne signifie pas non plus qu'on est indifférent à tous les problèmes, à tous les maux, M-A-U-X, de notre société. Non, pas du tout, ça nous touche, ça nous interpelle, on prie, on agit pour cela. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, mais il s'agit bien sûr d'être préservé du monde, du mal. Et la question, voyez-vous, frères et sœurs, elle se pose, à mon avis, dès le départ. La question, elle se pose dès la conversion. Ce n'est pas 10 ans, 15 ans, 20 ans après qu'on va se dire « Tiens, en fait, je suis le sel de la terre, il faudrait peut-être que je me bouge un petit peu. » Non, c'est dès le départ qu'il faut prendre les bonnes habitudes, les bons plis. Dès la conversion. C'est dès le départ qu'on apprend à vivre notre foi dans le milieu dans lequel on évolue. Quelqu'un me dira, mes frères, si vous saviez, à la maison, j'ai quand même un conjoint converti et oh là là, c'est pas facile. Je crois, je l'entends. Mais quand même, vivre sa foi dans le milieu dans lequel on vit, on évolue. Il s'agit peut-être pour une sœur ce matin de cohabiter avec un conjoint converti. Moi, je ne vous connais pas, je vous parle très librement. Quand j'étais pasteur à Elbeuf, il y a une sœur, elle y est toujours, qui pendant plus de 50 ans est venue toute seule à l'église. Pendant plus de 50 ans, toute seule. Son mari, il ne voulait rien savoir. Par contre, c'est quand même son mari qui prenait la voiture tous les dimanches matins et qui amenait sa femme aux portes de l'église et qui revenait après le culte rechercher sa femme. Pendant plus de 50 ans, il a fait le chauffeur. Mais il n'a jamais mis les pieds à l'église. Et puis un jour, il faut toujours y croire, frères et sœurs, un jour il est venu au culte. Il s'est converti. Alléluia. Et j'ai eu la joie de le baptiser. Alléluia. Il a marché un temps avec le Seigneur et puis maintenant, j'ai appris qu'il est auprès du Seigneur. Oui, il y a peut-être une sœur qui a un conjoint converti. Il y a des conjoints convertis qui sont charmants. C'est-à-dire que ce conjoint converti, il laisse la personne qui est chrétienne vivre sa foi, qu'il laisse prier, qu'il laisse lire la Bible, qu'il laisse aller aux réunions librement, mais il y a des conjoints convertis, excusez-moi, c'est plus compliqué. Et il y a peut-être des sœurs qui sont venues parfois au culte avec la boule au ventre en se disant « Tiens, quand je vais rentrer à la maison ce midi, qu'est-ce que je vais prendre encore, quoi ? J'ai intérêt d'ailleurs d'être à l'heure pour le repas, sinon... » Ah oui, c'est pas toujours facile de vivre avec un conjoint converti, avec quelqu'un qui vous titille, avec quelqu'un qui se moque peut-être de vous, qui vous lance des piques comme ça à table. Alors, vous êtes là, je suis chrétien, allez, tais-toi, dis rien. Et puis ça dure parfois des années. Hein. Vivre avec un conjoint qui n'est pas au Seigneur, avec des enfants peut-être qui ont grandi à l'école du dimanche, qui ont fait les rassemblements de jeunes, les colos, les camps, et puis qui aujourd'hui ont fait un autre choix. Il y a des parents chrétiens qui pleurent, qui prient pour le salut des leurs. Et il faut le faire, bien sûr. Pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être travailler avec un patron non chrétien. Oh là là, le patron, demain on revoit sa tête là, puis... C'est tellement tendu au boulot, là. Et pourtant, je suis chrétien, il faut que je fasse quand même attention. Hein. Je ne vais pas faire comme les collègues, quoi. Je vais pas... Alors, voilà, je suis chrétien, il faut que je fais attention avec ce patron qui n'est pas chrétien, avec des collègues, des employés non chrétiens qui ont une drôle de mentalité, qui parfois me font des propositions. Oh là là ! Eh oui, il faut faire avec tout ça tous les jours, voyez-vous. Il ne faut jamais perdre de vue, eh bien, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, dans ce milieu corrompu, avec ces gens qui vivent dans le péché. Et c'est là où je dis, frères et sœurs, qu'il nous faut toute la grâce de Dieu. Ouais. Parce que moi, le premier, on ne pourrait pas dire, mais vous savez, frère, je m'en sors. Hein. Moi, je suis converti depuis des années, vous savez, moi, je suis... Rien ne me touche, je m'en sors. Il faut toute la grâce de Dieu pour parvenir, sans excès inutile, à rendre sa foi crédible. Pardonnez-moi, il y a des chrétiens qui parfois n'ont pas rendu leur foi crédible. Il y a des chrétiens qui sont devenus de véritables pierres d'achoppement. Et on s'est étonné que des personnes ne se convertissent jamais. Oui, mais ce n'est pas étonnant. Ces inconvertis ayant vu certaines attitudes, ayant entendu certaines paroles, se sont dit « si c'est ça être chrétien, non merci ». Il faut la grâce de Dieu, frères et sœurs, pour rendre notre foi crédible aux yeux du monde, aux yeux de nos proches. Il faut toute la grâce de Dieu pour ne pas tomber dans des compromis inacceptables. Ah oui, parce que parfois, c'est compliqué quand même, il y a une proposition qui est faite, il y a une invitation, il y a un compromis. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas ? Je dis oui, je dis non ? Je voudrais vous proposer cet autre texte que vous connaissez très bien, frères et sœurs, aussi dans la parole de Dieu, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Ces versets vont, j'en suis convaincu, nous parler à tous, bien sûr. Éphésiens 2, on va lire les trois premiers versets, si vous voulez bien. Éphésiens 2, verset 1er, jusqu'au verset 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, que s'est-il donc passé ? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. On a fait partie, pour la plupart d'entre nous, de ceux qui vivaient selon le train de ce monde. Quand je considère, frères et sœurs, d'où le Seigneur m'a tiré et ce qu'il a fait de moi aujourd'hui, je dis merci Seigneur, j'étais pas meilleur que les autres, ah non, mais j'étais perdu Seigneur. J'avais pris une voie, ah là là, qui me menait tout droit à l'enfer. Mais tu m'as stoppé, Seigneur, au bon moment. Alors voyez-vous, il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du monde, du diable, de Satan. Il y a deux royaumes, il y a deux autorités, il y a deux mentalités différentes, complètement différentes, opposées. Dans le royaume de Dieu, l'autorité divine, elle est acceptée. Elle est respectée. Voilà. Et quand on fait partie de ce royaume, comme vous et moi, frères et sœurs, quand on est dans le royaume de Dieu, on n'a qu'un désir, c'est plaire à Dieu. Vous êtes d'accord ? Plaire à Dieu. Voilà mon désir. Voilà ce que je veux de tout mon cœur, Seigneur, du matin au soir. Plaire à Dieu. Vivre pour toi, Seigneur. Ah, le temps passe vite, les années passent vite. Parler avec Yvan, mais ce culte, c'est vrai, ça passe très vite. Moi, pour tout vous dire, le mois de mai l'année prochaine, j'aurai 60 ans. Oh, je me dis, mais c'est fou, quoi. Je suis encore dans les jeunes, mais j'ai 6 mois de sursis. Qu'est-ce que ça passe vite, quand même, la vie, les années, frères et sœurs. Quand on est jeune, quand j'étais jeune, oh, qu'est-ce que c'est long. Oh, t'as le temps. Ah ouais. Ça passe tellement vite. Te plaire, Seigneur. Te plaire, Seigneur. Vivre pour toi. Être utile, Seigneur. C'est parfois difficile, le pasteur vient de le dire, c'est parfois compliqué, mais ce n'est pas pour autant que je vais baisser les bras, ce n'est pas pour autant que je vais rester muet. Non, non. Sers-toi de moi, Seigneur. Que je sois le sel de la terre, que je suscite cette soif. Que je sois la lumière dans ces ténèbres. De l'autre côté se trouve le royaume du monde, le royaume soumis au diable, au malin. Et dans ce royaume, voyez-vous, c'est le péché qui règne. C'est le mensonge qui y abonde. C'est la convoitise de la chair, des yeux, c'est l'orgueil. Voilà la mentalité du royaume du monde, du royaume de Satan. Et à cause de tout cela, qui est vraiment rapidement dit, hein, rapidement résumé, à cause de tout cela, le chrétien, l'enfant de Dieu, ne peut pas aimer les deux royaumes en même temps, voyez-vous. Ah oh, Seigneur, je t'aime, tu sais, mais j'aime aussi aller dans tel endroit avec mes amis. Seigneur, je t'aime, mais tu sais que J'ai aussi besoin de temps pour autre chose. On peut pas, à un moment donné, on fait des choix, on dit stop aux choses auxquelles on doit dire stop. On ne peut pas aimer le royaume du monde ni les choses qui sont dans le monde. Nous avons été, vous et moi, frères et sœurs, introduits dans le royaume de Dieu. Comment ? À cause de nos mérites ? Moi, je vais vous dire, j'ai été introduit dans le royaume de Dieu parce que je suis le fils de Michel Pelletier, qui est pasteur depuis plus de 50 ans. Voilà pourquoi Bruno Pelletier a été introduit dans le royaume de Dieu. Non, bien sûr, vous ne me croyez pas, et vous avez raison. Il n'y a pas de piston avec Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous et moi, on a été introduits dans le royaume de Dieu par la foi qui est née un jour en nous, par cette foi qui nous a amenés à venir au pied de la croix, dans la repentance, en disant « Seigneur, je te demande pardon pour ma vie passée, je te demande pardon pour mes péchés. J'avais pris une voie qui n'était pas bonne. Pardonne-moi, change-moi, transforme-moi, fais de moi maintenant ton enfant. » Voilà comment vous et moi, on a été introduits dans le royaume de Dieu. On s'est converti à Jésus-Christ. On a concrétisé notre conversion comme des bien-aimés vont le faire cet après-midi en prenant notre baptême d'eau. Alléluia. Et l'état d'esprit qui est le nôtre, il est le résultat de notre repentance. Voilà. Il est le résultat de notre conversion à Jésus-Christ. On a changé de mentalité quand on s'est converti à Jésus-Christ. On a changé de mentalité. On vit, on marche en nouveauté de vie. Alléluia. En nouveauté de vie. C'est l'opposé de l'état d'esprit qui nous animait autrefois. La Bible dit « autrefois vous étiez ». Et là, je vous laisse maintenant tranquillement, frères et sœurs, vous rappeler ce que vous étiez autrefois. Voilà. À quelqu'un dire, regardez, moi, j'étais ce menteur-là, j'étais ce mari violent, j'étais ce jeune-là qui faisait tout en cachette. Autrefois, vous étiez, quand vous étiez dans le monde, quand vous faisiez partie de ce royaume, autrefois, vous étiez. Mais maintenant, vous êtes. Il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia! Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui nous a fait passer d'un royaume à l'autre. Alléluia. Le monde, le royaume du monde, vous le savez comme moi, il est régi par des principes. C'est la rébellion. C'est pas d'aujourd'hui, mais enfin. C'est l'orgueil, c'est la violence, c'est la vengeance, c'est la méchanceté, l'hypocrisie, le mensonge, etc., etc. Ça, c'est la mentalité du royaume du monde. Le royaume de Dieu, lui, il est régi par d'autres principes. L'humilité, la recherche de l'intérêt d'autrui. Plus d'égoïsme, hein. Le pardon. La droiture, la loyauté, la vérité, la pureté. Alors que j'étais pasteur, il y a quelques années, un jour j'ai vu venir à un culte un garçon que j'avais connu alors que j'étais pasteur à Saint-Nazaire. C'était en 2000, il y a 21 ans. J'avais, à mes yeux, eu aucun souci avec ce frère. Et puis un jour, je le vois arriver, là, à l'église. Les années sont passées. Et puis après le culte, il me dit, vous me reconnaissez, monsieur Pelletier? Je dis oui, comme ton visage me dit quelque chose. Il me dit, eh bien, le Seigneur m'a réveillé cette nuit, et puis j'ai fait la route ce matin. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller demander pardon au pasteur Bruno Pelletier. En pleine nuit. Il s'est exécuté, ce garçon. Il est venu, il a pris sa voiture, et le dimanche matin, il était là au culte, et après le culte, il me demande pardon. Moi, je dis, je te pardonne, mais je n'avais pas eu l'impression qu'il y avait eu un différend entre nous, quoi. Voilà la mentalité du royaume de Dieu, frères et sœurs. Savoir aussi pardonner. C'est tout un programme, ça aussi, hein. Ah là là. Avec le coup dur que ce frère m'a fait, ou que la sœur m'a fait, là, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Non. Dès que j'aurai l'occasion, hein, on va se venger, quoi, quand même, hein. On ne va pas laisser passer ça, quand même. Oh, on est des hommes, quoi. La mentalité du royaume de Dieu, voilà. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. T'as peut-être raison, mais abaisse-toi, quoi. Abaisse-toi, c'est pas grave. Le Seigneur va te justifier quand il le faudra. Alors, vous avez compris, frères et sœurs, que quand je vous ai parlé de programme, je dirais, on a une mission. Vous la connaissez, cette mission, mais je la rappelle simplement ce matin. Le Seigneur nous dit, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière dans ce monde. Oh Seigneur, tu me parles, tu me bouscules ce matin et je sens qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir peut-être que je répare quelque chose, que je prenne mon téléphone, que j'envoie un mail, que j'aille même me déplacer en personne pour aller voir telle personne parce que je me souviens que là, j'ai pas assuré. J'ai pas dit ce qu'il faut. J'ai pas eu la bonne attitude et le temps a passé. Seigneur, je veux être le sel de la terre, la lumière du monde. Une mission, être de bons chrétiens, être de bons citoyens, ne pas rechercher l'affrontement. Le chrétien, ce n'est pas un agitateur. Ça, c'est dans le monde. Hein. Le chrétien, il ne vient pas avec des pancartes à l'église. Hein. On n'est pas des revendicateurs. Non, non. On n'est pas des perturbateurs, on n'est pas des parasites, on n'est pas des provocateurs. On n'est plus du moins. Le chrétien, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui va favoriser la paix. Voilà. Favoriser la paix. Vous savez, quelquefois, il ne faut pas grand-chose pour mettre un peu d'huile sur le feu, vous savez. Hein. Il y a un petit projet, il y a une idée qui naît, comme elle ne vient pas de nous, allez hop, t'as vu encore ce qu'ils ont décidé là. Oh là là, mais où c'est qu'on va? On va aller ailleurs, hein, Yvan, parce que non, ça dérape, là. Le chrétien, il va toujours favoriser la paix, la justice, le respect d'autrui. Et vous savez, mes bien-aimés, oui, vous le savez, amener une âme à Jésus-Christ, c'est beau, hein, c'est quelque chose de formidable, vous savez. Bon, c'est vrai qu'on a parfois essayé, on a eu des refus, ça arrive couramment, hélas, mais au moins on a essayé. On a témoigné, on a invité quelqu'un. Amener une âme au salut, on peut le faire, vous pouvez le faire par un bon témoignage. Et là j'en reviens, pardonnez-moi, peut-être celui ou celle qui a un conjoint inconverti, ou des enfants inconvertis. Par ton témoignage, tu peux interpeller. Tiens, il s'énerve plus comme avant, tiens, il dit plus de gros mots, tiens. Il y a un changement, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Avoir un bon témoignage et ne pas être une pierre d'achoppement. Je regardais dernièrement encore la définition d'une pierre d'achoppement, parce qu'il est souvent parlé dans la Bible d'une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, c'est une pierre qui peut être très petite, voyez-vous, comme ça par exemple. Mais la pierre d'achoppement, c'est une pierre qui est placée de telle manière que celui ou celle qui va mettre le pied dessus va se faire du mal, va se blesser. Voilà ce que c'est une pierre d'achoppement. Waouh! Et la Bible nous dit, nous demande de ne pas être une pierre d'achoppement. Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne vient plus à l'église et c'est de ma faute. Ça m'est arrivé, frères et sœurs, et je vous le dis franchement et très rapidement dans mon témoignage. Moi, quand j'ai pris mon baptême à Brest en 1977, on était quatre jeunes hommes. Sur ces quatre jeunes hommes, je suis le seul en vie depuis des années. Je passe rapidement. Le dernier de ces garçons, Alexandre, il a fréquenté une jeune fille un jour. Et cette jeune fille, elle nous disait, « Moi, je veux aller à l'église. Je veux aller à l'église, je veux entendre ces chants. Et nous, et moi, qu'est-ce qu'on lui a dit ? N'y va pas, on y a été pendant des années, tu vas perdre ton temps. » Véritable pierre d'achoppement pour cette personne, à lui dire, « Non, ne va pas à l'église, ça ne sert à rien. » Seulement Alexandre, un jour, il va avec cet ami, manger dans un restaurant au Conquet, si vous connaissez le Finistère, vous avez Brest et le Conquet, c'est vraiment le bout de la terre, là. Repas au restaurant, un peu trop arrosé, m'a-t-on rapporté. Sur le chemin du retour, c'est l'accident de voiture. Alexandre est tué net sur le coup. Elle est paralysée à vie. Ah, souvent, j'ai dit à Dieu, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Jamais j'aurais dû dire à quelqu'un, va pas à l'église. Jamais. avoir un bon témoignage, frères et sœurs. Ayez ce bon témoignage. Et moi, je vous encourage, même si ce n'est pas facile, même si tu te dis dès ce midi, dès cet après-midi, là, ça va recommencer. Avec la grâce de Dieu, ça va aller, mon frère, ma sœur. Ça va aller avec la grâce de Dieu. Et tu vas être, et Dieu va se servir de toi auprès de ton mari, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants. Ton voisin, peut-être, qui te fait des histoires parce que ta haie est trop haute ou mal coupée, enfin, que sais-je. Dans le royaume de Dieu, permettez-moi encore ces quelques pensées, on est conscient de nos droits. Ah, ça, le français, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai droit à. Je vais faire les démarches parce que j'ai des droits. Dans le royaume de Dieu, on est conscient de nos droits, mais on est aussi conscient de nos devoirs. On a des devoirs en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas de vivre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cloîtré, isolé, comme un anonyme, là. Personne ne sait qu'on est chrétien. Il ne faut surtout pas que ça sache que je vais à l'église, parce que sinon, oh là là. Conscient de nos droits, mais conscient aussi de nos devoirs. Seigneur, tu as fait de moi ton enfant. Je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Il faut que je serve à quelque chose. Il faut que ma vie te serve, Seigneur. Et pardon pour toutes les fois où elle ne t'a pas servi comme il faut, Seigneur. Le chrétien, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un violent, ce n'est pas un querelleur, ce n'est pas un resquilleur. On n'est plus comme ça. Parce que le Seigneur nous a changés, parce que le Seigneur nous a transformés. Le chrétien, c'est aussi quelqu'un d'honnête, en affaires. Ouh là là, frère. N'allez pas sur ce terrain-là parce que vous connaîtriez mon patron qui quelquefois nous propose des choses pas très glorieuses. Eh oui, le chrétien c'est quelqu'un d'honnête. Et à un moment donné, il faut savoir se démarquer. Non, je peux pas. Ah bon, pourquoi ? Et expliquer hein, s'il le faut. Travailler avec une bonne conscience. Respecter les supérieurs, prier pour les dirigeants. On éduque nos enfants dans ces valeurs-là. Hein. Alors je vais terminer avec cette lecture que vous connaissez aussi, frères et sœurs, ce verset de Matthieu chapitre 6. Ah, vous le connaissez par cœur ce verset, peut-être que même à la maison vous avez un cadre ou quelque chose qui vous rappelle tous les jours ce verset, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement, c'est-à-dire avant toute chose, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Frères et sœurs, je vous remercie de tout mon cœur pour votre écoute, pour votre accueil. Et je demande vraiment maintenant au Seigneur qu'il puisse bénir pour chacun d'entre nous sa parole. Et que le Seigneur puisse faire de toi, mon frère, de toi, ma sœur, le sel de la terre, la lumière du monde. Que le Seigneur t'utilise. Continue d'utiliser. T'utilises peut-être à nouveau, mais que notre vie serve au salut des âmes, à l'avancement du règne du Seigneur. Amen. On va courber nos fronts, on va prier ensemble le Seigneur, mes bien-aimés. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vais faire une prière, puis après, si Yvan me le permet, un petit appel aussi. Seigneur, je te rends grâce, je te remercie pour ta présence au milieu de nous ce matin. C'est toi qui nous as donné rendez-vous, Seigneur. Et tu réponds toujours au rendez-vous que tu fixes, tu es toujours là. Et je te rends grâce pour mes frères, mes sœurs, les jeunes, les enfants, les amis qui sont là peut-être pour là ou l'une des premières fois. Je te remercie, Seigneur, parce que pour la plupart d'entre nous, tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu as fait de nous tes enfants. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes à toi, nous sommes tes enfants, et nous voulons que nos vies te servent, Seigneur. Nous voulons que nos vies te servent. Ah, je te prie pour cette assemblée, Seigneur, pour tous ceux qui la composent. Les foyers, les familles. Bénis cette assemblée. Je te prie pour Yvan. Bénis mon frère, Seigneur, mon collègue, mon ami. Bénis son ministère. Renouvelle-le, encourage-le. Bénis Camille en formation. Bénis tous les frères, toutes les sœurs qui travaillent d'une manière ou d'une autre. C'est vu, c'est moins vu. Bénis-les tous et encourage-les tous, Seigneur. Et je veux maintenant réserver un temps de prière parce qu'il y a peut-être un frère, une sœur qui a besoin de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu ce matin, suite à ce simple message qui a été apporté. Et je vous invite, frères ou sœurs, à vous lever à votre place si vous avez besoin que Dieu vous touche à nouveau ce matin, vous pardonne peut-être une lacune, un manquement. Si vous voulez qu'à nouveau le Seigneur se serve de vous, je vous demande simplement maintenant de vous lever à votre place, frères et sœurs. Et on va ensemble prier le Seigneur. Et on va dire au Seigneur, « Me voici, Seigneur. Me voici pour te servir. » Oh oui, « Me voici, Seigneur. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Dans ma famille, dans mon quartier, tu as besoin de moi. » Si vous désirez qu'on prie ensemble, levez-vous maintenant à votre place et je prie ensuite. Je laisse la place pour la continuité de ces moments. Seigneur, merci. Seigneur, merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je vois, et tu vois, Seigneur, ces bien-aimés qui sont debout maintenant à leur place. Chacun s'est levé spontanément, volontairement, sans aucune contrainte. Je te prie de bénir ces bien-aimés, Seigneur. Je te prie de les encourager, de les consoler s'ils ont besoin de l'être. Je te prie de les fortifier. Je te prie de les aider dans leur témoignage, dans leur vie de tous les jours. Oui, nous vivons dans ton royaume, Seigneur, et nous voulons que cela se voie. Bénis les musiciens, bénis toute cette assemblée, Seigneur, cette ville, cette région. Et un grand merci, Seigneur, pour qui tu es, un grand merci pour ce que tu fais en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'à ton nom seul en revienne toute la gloire. Amen.